fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Il fait quoi ?
Sandra Millot.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il fait quoi ? Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous découvrons le LAIFE Réseau Capture, qui croise les apports de la recherche et du terrain autour d'une expérimentation qui, grâce à l'enseignement de l'anglais, vise à accrocher des élèves de CAP à l'enseignement scolaire et qui cherche aussi à favoriser leur adaptation au marché du travail. Pour cela, les cours d'anglais sont délivrés par le biais de cours modules dont l'enseignement et les espaces d'apprentissage ont été repensés. Pour en parler, nous accueillerons Caroline H, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation rattachée au laboratoire ADEF à Aix-Marseille Université, et Frédéric Michel, enseignant et chargé de mission d'inspection anglais-lettres dans l'Académie d'Aix-Marseille. Puis Eva Rouressol nous proposera une nouvelle chronique pour un mot un chercheur où elle soumet les définitions du mot direction à l'analyse de Laetitia Progin, professeure associée en leadership et direction d'établissement à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo pour une nouvelle chronique biblio. Bonjour Claire.
Bonjour Sandra.
Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous alliez nous parler des ouvrages d'un homme aux multiples facettes.
Tout à fait. Je vais vous parler effectivement d'un monsieur qui a été fasciné par l'exemple anglais. Bon, même si certains aspects de cet exemple ont pu l'agacer. Et ce monsieur, c'est Pascal Grousset, un homme de la deuxième moitié du 19e, 1844-1909 pour ses dates.
Oui, alors en effet, c'est pas un nom très connu du grand public.
Non, et pourtant il a eu tout un tas de vies. Il a été communard, il a été enfermé au bagne, dont il s'est évadé, il a été exilé en Angleterre. C'est aussi un auteur pour la jeunesse qui a eu un certain succès à l'époque. Il a écrit des vies de collège, des romans d'aventure, des romans d'imagination scientifique, avec Jules Verne et parfois pour Jules Verne. Mais il se cache derrière un pseudonyme, dans ces cas-là, André Laurie. Et il a été aussi un militant pour la cause de l'éducation physique. Et c'est surtout de cet aspect dont je vais parler aujourd'hui.
C'est donc un homme qui a plusieurs vies et plusieurs noms, visiblement.
Ah oui, on lui connaît au moins 7 pseudonymes. Et quand il a écrit pour la cause de l'éducation physique et sportive, c'est souvent sous le nom de Philippe Daril, ou alors Docteur G ou PD, tout simplement.
Regardez-les courir après le ballon. Regardez cette frénésie populaire, cette ferveur nationale devant ce spectacle. Le jeu de la balle au pied, le football. C'est moi qui l'ai importé d'Angleterre en France. Président fondateur de la Ligue nationale pour l'éducation physique, je ramenais la course à pied du matin, excellente pour la santé. Dans une série d'ouvrages sur la vie de collège dans tous les pays, je réclamais la généralisation de l'éducation physique dans les écoles.
Grousset a un rôle essentiel dans le déclenchement du phénomène sportif et dans le déclenchement de l'avènement de l'éducation physique.
Pour promouvoir ses idées, effectivement, il a écrit un ouvrage, Renaissance physique, mais il a aussi participé à une encyclopédie des sports et surtout, il a écrit de très très nombreux articles dans la presse sur ce sujet. Et pour être sûr d'être bien lu, d'ailleurs, il a créé lui-même un journal, L'éducation physique.
Renaissance physique, c'est un titre un peu martial, non ?
Oui, et pourtant, c'est à la fois un manifeste sportif et un traité pédagogique. En fait, il s'est appuyé sur l'exemple de l'éducation qui était donnée en Angleterre, notamment à Eton, puisqu'il a séjourné en Angleterre, puisqu'il était en exil. Et d'après lui, grâce aux exercices physiques, on ne voit pas d'élèves bossus ou au teint hâve comme en France, parce que l'éducation anglaise s'est mêlée harmonieusement, l'éducation intellectuelle et l'éducation physique. Donc il va observer ce modèle anglais et voir ce qu'on peut en tirer pour l'importer en quelque sorte en France. Mais pour lui, il ne s'agit pas de copier servilement l'Angleterre. Par exemple, il y a des sports qui correspondront jamais à notre esprit national, comme le cricket ou la chasse au renard. Mais il remarque que l'Angleterre a su adapter et transformer des jeux anciens, parfois même issus de France, et qu'on peut en quelque sorte se tourner vers l'Angleterre pour les récupérer, parfois en les adaptant ou en leur enlevant quelques détails. Et déjà en leur changeant le nom, on a vu tout à l'heure le football, et par exemple le lawn tennis devient le jeu de la pomme au filet.
Mais ça, c'est pas un retour au passé ?
Alors, en fait, non, parce que ce n'est pas spécialement nostalgique. En fait, c'est plutôt l'idée de réintroduire de l'exercice et de l'activité physique dans une vie qui est devenue très sédentaire, et notamment à l'école. Et par le jeu, on va réussir à faire de l'exercice avec plaisir. Donc, dès le plus jeune âge, il faudrait réintroduire en fait le mouvement dans la vie et pas sous la forme d'exercices ennuyeux, codifiés, rigides qu'on pratique dans les gymnases, comme ça se faisait beaucoup, hein, et où en fait tout élève n'attend qu'une seule chose, c'est que ça se termine et surtout, quand sa scolarité est terminée, de ne plus jamais recommencer ce genre de choses. Donc, lui, bah, il voulait, en alliant le jeu et l'exercice, que ça, en fait, que ça fasse plaisir et en même temps qu'on bouge. Son but n'est pas du tout de faire des élèves des champions. Et en cela, il a été d'ailleurs un fervent opposant à Pierre de Coubertin. Son journal, d'ailleurs, qui s'appelle « L'éducation physique » et non pas « Le sport », par exemple, porte bien son nom. C'est vraiment ça. Et d'une certaine façon, notre discipline, l'éducation physique et sportive, les rencontres sportives, par exemple, qu'on fait au niveau des écoles, entre écoles, etc., eh bien, sont dans l'esprit de sa conception de l'activité physique. Pour accompagner cette activité physique aussi, il a beaucoup milité pour que les emplois du temps scolaire soient adaptés, pour pouvoir introduire ces moments de jeu et d'exercice, pour que se développe l'hygiène. Après avoir s'être un peu dépensé, il est quand même bon de prendre une sorte de douche avec un tub. Et aussi pour adapter les costumes, par exemple, il va militer pour que les femmes puissent porter un pantalon si elles font de la bicyclette.
Ah bah alors
C'est bienvenu, oui.
Il était très moderne alors pour l'époque.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, on voit chez lui ce qui a eu des conséquences, mais après, il est aussi de son temps. Par exemple, ce retour aux exercices physiques, c'est aussi parce qu'on est dans la période post la défaite de 1870. Mais c'est vrai qu'il y a une forte volonté d'éducation sociale et populaire. L'exercice physique et le plaisir du jeu doivent profiter à tous les enfants scolarisés et pas seulement, par exemple, aux jeunes bourgeois des lycées privilégiés. En ce sens-là, oui, il peut être vu comme très moderne.
Eh ben merci beaucoup Claire pour cette chronique plus sportive que d'ordinaire. Accueillons maintenant nos deux invités. Caroline H, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation, rattachée au laboratoire ADEF à Aix-Marseille Université. Et Frédéric Michel, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes enseignant et chargé de mission d'inspection anglais-lettres dans l'Académie d'Aix-Marseille. Alors merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour parler du lieu d'éducation associé Réseau Capture qui s'appuie sur une expérimentation d'envergure. En effet, elle implique environ 17 enseignants d'anglais en CAP dans une quinzaine de lycées professionnels couvrant l'Académie d'Aix-Marseille. Alors comme je l'ai signalé dans le sommaire, cette expérimentation qui propose un enseignement de l'anglais repensé avec la mise en place de courts modules d'apprentissage dans des espaces réinventés permet de travailler à l'accrochage et à l'employabilité des élèves de CAP. De plus, l'inscription de ce projet au sein du réseau d'Eléa a permis d'approfondir les questions de recherche collaborative et de formation qui en émanent. Mais avant d'aborder la question du Léa à proprement parler, Frédéric Michel, pouvez-vous nous expliquer quel constat vous a conduit à mener cette expérimentation auprès des élèves de CAP ? Est-ce que la récente réforme du lycée professionnel y est pour quelque chose ?
Disons que, en fait, dans le temps, en fait, Capture, c'est une expérimentation qui date de 2017. Elle était une action de formation avant 2017 parce que, très concrètement, afin de répondre aux besoins émanant en fait d'un constat partagé avec les enseignants qui sont chargés d'enseignement dans bon nombre de classes en fait de CAP, on a constaté que les élèves étaient en grande difficulté, que les profils étaient vraiment de plus en plus hétérogènes, un taux d'absentéisme élevé, un manque de motivation pour le cours de langue et une absence de travail personnel. Le constat était, on va dire, pessimiste. Hein, et puis, la vie au sein des classes était aussi difficile parfois. Donc, le lien avec la réforme, en fait, avant le nouveau programme de 2019, déjà, Capture répondait aux objectifs de la transformation de la voie professionnelle qui visait à exploiter le champ des possibles et ce qu'on appelait dans les documents, notamment les Vademecum accompagnant la transformation de la voie professionnelle, l'exploitation des talents des élèves. Donc, avec le champ des possibles et puis le talent des élèves, on essayait d'accrocher l'élève par leur talent et surtout de favoriser le champ des possibles en leur proposant une autre façon d'enseigner, finalement.
Et alors, cette autre façon d'enseigner, en quoi elle consiste ?
En fait, ce sont l'objectif, parce que bon, ça reste un objectif qui n'est pas facile à atteindre, c'est de mettre en place en fait un projet de formation basé sur des modules de 2 heures. Donc, à l'époque où nous avons débuté l'expérimentation, en 2017, l'enseignement de l'anglais, c'était 2 heures par semaine. Donc, l'objectif était de proposer un certain nombre de modules Quelques-uns appellent ça, des enseignants du expérimentateur, pardon, appellent ça des mini-séquences, voilà. Donc nous, on préfère le terme module peut-être, qui ont leur propre unité, qui peuvent se faire de manière consécutive ou pas, et qui permettent, dans une semaine, d'avoir une unité vers laquelle on peut se tourner, et puis à l'issue de laquelle on peut proposer un objectif de production. L'objectif aussi, c'est que, étant donné qu'on est dans l'employabilité, c'est que les modules de formation intéressent les futurs employeurs. Donc, un des aspects, on va dire, si je ne glisse pas trop, peut-être vers d'autres questions, mais un des aspects peut-être, on va dire, novateurs de cette expérimentation, c'est l'idée de faire bouger un tout petit peu les lignes en proposant des activités langagières à acquérir, ce qui fait partie du cadre classique, le prescrit en CAP, mais aussi de travailler sur d'autres compétences transversales, psychosociales ou socioprofessionnelles.
Alors, Carolina, en préparant cette émission, vous m'avez signalé que l'équipe de recherche s'était greffée au projet à partir de 2020, c'est bien ça ?
Oui,
Et
c'est ça.
Quels étaient, vous, vos objectifs respectifs quand vous êtes entré en collaboration avec Frédéric Michel ?
Alors, l'idée, c'était une rencontre à la base un peu fortuite, des échanges sur cette volonté de faire, comme le dit Frédéric, bouger les lignes, et puis peut-être d'amener quelque chose de nouveau dans ce collectif. Donc, ça faisait 3 ans que ça tournait. Le fait d'amener la recherche à travailler avec eux, eh bien, c'était amener une expertise différente pour qu'on puisse eh bien, faire profiter le collectif de nos outils, de nos connaissances théoriques. Donc, c'était vraiment une volonté de continuer cette logique qui existait bien avant l'arrivée de la recherche, qui était un enrichissement d'un collectif d'enseignants qui a envie de faire changer les choses et d'améliorer, de progresser dans sa façon d'enseigner l'anglais.
Vous nous aviez confié que la présence de la recherche, finalement, participait aussi de la valorisation du travail des enseignants. Frédéric Michel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet aspect ?
Oui, parce que quand j'ai mentionné tout à l'heure que le projet existait, l'expérimentation existait depuis 2017, hein, c'est une initiative qui n'est pas que de mon fait. Hein, c'est évidemment Alain Brugnas, l'inspecteur de la discipline, qui a lancé ce projet. Donc, on a travaillé sur celui-ci. Dans les ambitions majeures qu'on s'était fixées, avec un cahier des charges qu'on a mis en place dès la première année, bon, il y avait tout ce qui relevait de l'implication de l'élève dans un parcours de formation, que l'idée de parcours était importante dans la transformation de la voie professionnelle. Donc, c'était un parcours de formation qu'on voulait un tout petit peu repenser. On voulait qu'on ait la possibilité de reconnaître, en fait, un certain nombre de compétences et pas que langagières pour favoriser l'employabilité. Faire du cours d'anglais est tout simplement un atout, hein, pour l'employabilité, si je puis dire. Et pour répondre plus précisément, pardon, à votre question, la valorisation, elle est évidente. C'est que, en passant par la valorisation des élèves, on est dans une dynamique qui est une dynamique positive. L'évaluation positive est vraiment une notion très importante dans le projet. Donc, les enseignants qui s'impliquent dans cette évaluation positive, ils trouvent du coup un moteur qui est un moteur positif, qu'ils trouvent aussi dans l'interaction qu'ils ont avec la recherche et l'individualisation de l'implication de chacun avec la recherche ou les différents dispositifs qu'on a proposés dans le cadre de l'expérimentation et du Léa. Et puis, bon, voilà, les regards croisés, tout simplement, hein, je veux dire, se retrouver dans un collectif de travail repensé avec l'idée selon laquelle l'expérimentation, c'est le recteur qui disait lors de la journée de l'innovation, lors d'une de ses introductions, qui disait qu'on sortait des sentiers battus, donc il ne fallait pas s'interdire de mettre en œuvre des stratégies qui étaient autres. D'où l'expression déjà 2 fois employée par nos soins, qui est faire bouger les lignes. Tous ces éléments-là font que l'enseignant se sent, on va dire, forcément investi. On les a réunis il y a quelque temps pour un premier regroupement, le premier regroupement de l'allée. Et la première des questions qu'ils nous ont posées tout de suite, c'est bon, l'année prochaine, on continue. Voilà, on est dans une dynamique. On sent que voilà, il y a un réel besoin. Et puis surtout, la question de la valorisation est au centre, en fait, de leurs préoccupations aussi, ce qui est tout à fait normal. On a d'ailleurs beaucoup de témoignages à ce sujet-là.
Carolina, vous avez proposé dans le cadre de votre action des perceptions de l'évaluation en concevant une évaluation diagnostique, et vous travaillez aussi sur l'autoconfrontation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, donc, nous, je pense que ce qu'on a pu apporter au collectif, il y a eu trois grands temps. Alors, notre richesse, c'est qu'on est un collectif de chercheurs également, donc qui viennent, chercheurs et chercheuses, qui viennent de différents domaines. On a une socio-économiste de l'éducation, une linguiste et deux chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation. Donc, on a aussi une pluralité d'approches théoriques, mais également méthodologiques, qu'on met au service du collectif enseignant. Donc, en fait, il y a eu trois grands temps. Le premier, ça a été de proposer aux enseignants une description fine du métier d'enseignant et du métier d'élève en lycée professionnel. Donc, en fait, on a fait une enquête auprès des enseignants de l'Académie d'Aix-Marseille travaillant en lycée professionnel. Et on a fait une très grande enquête. On a eu à peu près 400 enseignants qui ont participé de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, c'est pas mal pour une seule académie. Et 550 élèves qui ont répondu aux questions que l'on a posé dans un questionnaire, que l'on a fait passer aux élèves, on s'est déplacé dans les établissements. Donc ça, je pense que ça a été une première chose assez intéressante. C'est toujours ce qui plaît en général dans la recherche, c'est le fait de sortir un peu de son quotidien, de prendre du recul et de découvrir en fait ce qui se fait, ce qui se dit dans le milieu dans lequel on travaille. Donc, les enseignants, ils ont eu accès à la déclaration de 300, de 400 autres enseignants de lycée professionnel, comment ils bossent, leur perception du métier, leur parcours, etc. Et puis, ils ont eu la parole des élèves, ce qui est assez rare, surtout quand on est enseignant, parce qu'on a une posture spécifique en classe. Donc, les élèves ne disent pas forcément la même chose que ce qu'ils nous ont dit, chercheurs qui débarquions pour une journée dans l'établissement avec qui ils n'avaient pas de lien particulier. Donc, ça, c'était le premier temps un peu descriptif de la situation. Dans un deuxième temps, en fait, on s'est associé donc à une mission autour de cette valorisation positive qui a pris la forme d'une évaluation diagnostique. Donc, le projet, c'était de travailler sur le positionnement des élèves en début d'année. Et donc de faire travailler les enseignants là-dessus. Donc, en fait, ils se sont mis à bosser à plusieurs, à essayer de concevoir une ingénierie d'évaluation diagnostique. Et la recherche, elle est venue pour réaliser des focus group avec donc un groupe d'enseignants qui avait créé une évaluation. Et donc, les chercheurs ont été là pour venir questionner leur choix, pourquoi ils ont fait tel choix plutôt que tel autre, quelles ont été les interrogations, les débats, les controverses. Et le fait d'utiliser un outil de la recherche qui est l'outil du focus group a permis aux enseignants, en fait, de revenir sur les raisons qui les poussent à faire tel ou tel choix, à débattre ouvertement les uns avec les autres sur ces sujets et à faire évoluer leur perception, en fait, de l'évaluation, donc avec des perceptions des fois plutôt négatives, d'autres qui étaient plutôt positives. Donc, c'était créer un espace où ils ont pu débattre de tout ça et retravailler suite à ces échanges, l'outil évaluation diagnostique et donc qui a pris le terme de positionnement après, justement, par rapport à ce terme d'évaluation qui pouvait être connoté pour ensuite être mis dans les classes. Et le dernier dispositif, le dispositif d'autoconfrontation, en fait, il est arrivé sur la fin de la deuxième année du Léa. En fait, c'était... le collectif a choisi de développer des pôles d'expertise professionnelle. Peut-être que Frédéric pourra en reparler. Et donc, ces pôles d'expertise professionnelle, c'est de dire aux enseignants sur quoi vous avez envie de progresser. Et ils avaient plein de ressources pour progresser. Et une des ressources était l'autoconfrontation. Donc, en fait, c'était un binôme. On créait des binômes, un enseignant, un chercheur. Et l'autoconfrontation, donc, c'est le chercheur qui est invité dans la classe pour filmer une séance de l'enseignant. C'est lui qui choisit la classe, le jour, même la thématique abordée. De toute façon, le chercheur n'est pas du tout un spécialiste de l'enseignement de l'anglais, hein. On a pas du tout une position de jugement. On est là pour filmer la séance. Et ensuite, on demande à l'enseignant d'identifier trois extraits de 2-3 minutes sur lesquels il a envie de revenir. Et on se redonne rendez-vous, et c'est ça le temps de l'autoconfrontation. C'est un temps où on va regarder ces trois extraits, et en fait, l'enseignant va venir parler sur ces extraits. Donc ça, c'est un dispositif de recherche qui fonctionne super bien, qui accompagne les enseignants dans un processus de développement professionnel. Et c'est vrai qu'on a des retours assez positifs des collègues enseignants qui ont joué le jeu.
Alors Frédéric Michel, justement sur cette question des pôles de formation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il me semble qu'il y en a 11, si mes souvenirs sont bons.
Alors les pôles de professionnalisation sont inscrits en fait dans une logique. En fait, le collectif de travail, c'est lié, si vous voulez, à l'identité du groupe. Capture, c'est un nom que l'on a créé pour des questions évidentes de jeu de mots. Donc l'identité du groupe est vraiment un élément qui est vraiment important, le fait de captiver, d'avoir une ambition un peu pragmatique en fait dans nos dans notre approche. Le deuxième point, la deuxième logique, est que pôle de professionnalisation ou de développement professionnel s'inscrit aussi dans une démarche que l'on mène, on va dire, un peu comme un fil rouge, et puis avec les moyens que nous avons, et puis la difficulté du sujet aussi auquel il fait référence, c'est la question de la démarche qualité. C'est-à-dire qu'on souhaite concrètement faire évoluer les pratiques des enseignants en faisant bouger les lignes, comme je disais tout à l'heure. On sait que ce n'est pas facile. Donc, pendant qu'on est en train de développer ces pôles de professionnalisation sur lesquels je vais revenir, il y a en fond de tâche la volonté de vraiment proposer aux enseignants aussi des indicateurs clairs pour avoir une démarche réflexive sur leurs pratiques, ce qui est, on va dire, le lien que nous avons aussi de manière, on va dire, presque automatique et aussi logique avec la recherche. C'est-à-dire que, voilà, en quoi cela répond à un certain, on va dire, à certaines préoccupations de terrain, certaines, on va dire, préoccupations de la recherche, et le terrain commun que nous avons, c'est un peu cet objet, on va dire, commun que nous avons, bon, ben voilà, l'enseignant est dans cet objet-là et on essaye de le faire travailler sur, on va dire, des pôles de professionnalisation. Alors, plus précisément, lorsque l'expérimentation a débuté, il y avait 6 établissements impliqués et lorsque nous nous sommes engagés dans le LEA, c'est-à-dire 2021, il s'est rapidement posé la question du nombre d'établissements qui allaient être impliqués dans le LEA, dans la mesure où on avait déjà un groupe expérimentateur. Voilà, ça nécessitait, on va dire, un degré d'implication autre. Donc, on a pensé, du coup, à, comme on était déjà une quinzaine, on avait bien fait évoluer le groupe, on a sollicité les enseignants et 11 étaient partants pour pouvoir, on va dire, s'impliquer dans un pôle de professionnalisation. Comment ça fonctionne? Dans le cahier des charges, on a un certain nombre de thématiques qui sont liées à Capture. Et dans ces thématiques-là, avec la recherche, nous avons, on va dire, dessiné 5 grands pôles qui sont soit liés à la mixité des publics, l'hétérogénéité, donc la question des profils linguistiques et du positionnement s'est greffée sur ce pôle-là, la question de l'espace et des temps de travail, la valorisation des élèves, la notion d'inclusion scolaire aussi, et puis ce que la recherche étudiait un tout petit peu plus de son côté, le rapport des élèves à l'école. Ces pôles-là se sont mis en place de cette façon-là. Et très, très concrètement, la recherche travaillait avec le dispositif d'autoconfrontation et on a décidé de mettre en place un accompagnement en 3 temps avec chaque un expérimentateur, du coup, Léa. Ces 3 temps étaient les suivants. Donc, contact avec chaque enseignant, c'est une partie dont je m'occupe, en fait. Donc, ils sont 11, donc 11 contacts. Contractualisation d'une thématique après une discussion, voilà, sur... la compétence avouée ou dite ou osée de la part de l'enseignant en question, de décider ensemble si on voulait développer cette compétence ou s'engager sur une autre thématique qui était peut-être, on va dire, un peu moins développée dans la pratique au sein de Capture. Du coup, deuxième temps, travailler sur un témoignage. Donc, on a la dimension blog de notre Léa qui est, on va dire, alimentée par l'ensemble des témoignages qui ont déjà été finalisés. Et l'objectif final étant, à l'issue du Léa, d'inclure en fait tout le travail qui a été fait autoconfrontation-recherche et par les pôles de professionnalisation dans ce qu'on appelle une trousse à outils capture. La trousse à outils capture regroupera sous forme de ressources l'ensemble des travaux qui ont été menés pendant les 3 ans et au cours de l'expérimentation depuis qu'elle existe quasiment. Donc chaque ressource aura pour objet de créer les conditions en fait d'une généralisation de certaines pratiques, certaines stratégies qui sont certes CAP, mais qui peuvent aussi, on va dire, être exploités dans le cadre d'autres formations, comme le Bac Pro, par exemple.
Mmh. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est un peu éloigné de ce qu'on vient de dire là pour l'instant, mais qui revient systématiquement quand on parle de travail collaboratif et a fortiori de recherche collaborative, c'est comment fait-on pour maintenir en fait l'énergie de tous les acteurs impliqués? Comment est-ce qu'on maintient cette flamme en fait? Parce que quand on est dans un projet d'envergure comme celui que vous proposez, j'imagine qu'il y a une sorte d'essoufflement des acteurs. Caroline H.
Je pense que la force de ce collectif, en fait, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un collectif qui fonctionne en fonction des besoins des personnes. C'est-à-dire que il n'y a pas une imposition, il n'y a pas d'imposition d'un sujet. Ce que présente Frédéric, c'est que le rendez-vous individuel avec l'enseignant, c'est nous en recherche, on dirait qu'ils ont problématisé pendant ce rendez-vous, c'est prendre le temps avec chaque enseignant de problématiser, de se questionner sur quel est le sujet sur lequel tu veux progresser sur cette année, sur les deux années à venir, etc. Et de permettre, en fonction de l'enseignant, en fonction de sa capacité d'implication, parce qu'on sait que les enseignants, ils sont au croisement de plusieurs dynamiques, de plusieurs projets, en fonction de leur établissement, de leur discipline, etc., de proposer des ressources qui seraient le plus adaptées à l'enseignant dans l'instant T et par rapport à la thématique qu'il a choisie. Donc ça, je pense que c'est une vraie plus-value qui va permettre en fait l'engagement fort des enseignants et c'est ce qu'ils verbalisent. Et le deuxième, selon moi, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les pilotes de cette expérimentation, Frédéric Michel et Alain Brugnas, ils ont cette volonté d'amener de la nouveauté. Donc, ils ont lancé le projet en 2017. En 2020, ils ont demandé à la recherche, c'est quand même quelque chose qui se fait pas forcément facilement, ouvrir les portes de l'expérimentation à des personnes extérieures à l'environnement. Et ensuite, on a enchaîné avec le Léa, qui a apporté encore une nouveauté à nouveau. Donc voilà, c'est ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider à entretenir la flamme, l'adaptation, l'adaptabilité et la nouveauté.
Frédéric Michel.
Le cœur en fait de notre travail, c'est la classe. C'est-à-dire que dans le programme de 2019, il est question il y a des termes très forts, la curiosité, l'adhésion, la créativité, l'envie, la confiance, l'estime de soi. Donc, quand on met en place, par exemple, un dispositif qu'on en a créé qui s'appelle iCare, qui est un jeu de mots, en fait, autour de iCare, le verbe to care en anglais, qui veut dire prendre soin d'eux, mais aussi être concerné. En fait, on a créé un acronyme qui est Je pour I et Care, avec les lettres C, A, R et E, qui veulent dire compris, aimé, retenu et élaboré. Au sein de la classe, par post-it, à la fin de l'heure, certains enseignants, dont je fais partie, donnent la parole aux élèves. Comment on entretient la flamme si ce n'est que par avoir, de manière positive, des élèves qui vous disent qu'ils ont compris, aimé, retenu et élaboré. J'ai fait un tout petit peu, là, rapidement, une petite synthèse des quelques post-it que j'avais à ma disposition. C'est énorme le substrat que l'on a entre les mains qui permettent de tout simplement de dire « mais pourquoi est-ce que… » Concrètement, on entretient la flamme, ben, très simplement parce qu'on voit le retour que les élèves en font. Donc ça, c'est un côté élève, c'est vraiment un élément qui est vraiment fondamental. On voit les élèves qui produisent plus, qui s'impliquent plus. Le ressenti est beaucoup plus fort, beaucoup plus positif. Certes, la production, les élèves restent en difficulté. Je veux dire, après, il ne faut pas non plus dépeindre un tableau qui soit, on va dire, idyllique. Hein. Les problématiques sont toujours les mêmes et en constante évolution. Mais on constate, quand on parle de faire bouger les lignes, on constate que les lignes bougent. Du coup, côté enseignant, comment on entretient la flamme? Je pense que le terme qui revient le plus souvent, c'est l'énergie. C'est-à-dire que avoir les mains dans le moteur, être aux préoccupations du quotidien, l'adaptabilité, c'est-à-dire être à l'écoute. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec un autre enseignant sur la démarche qualité dans Capture. Donc, on crée une fiche Caléduc sur ce que c'est que mettre en place Capture. C'est la cinquième ou sixième fois qu'on échange sur ce sujet-là. Et il est reparti en me disant, on se revoit, cette énergie-là qui est vraiment fondamentale et qui fait que, on a un groupe qui, bon an, mal an, avance avec ses qualités, ses axes de progrès qu'on pourrait appeler, mais comme on est dans une démarche qualité, on arrive facilement finalement à beaucoup, beaucoup plus mettre en valeur les qualités, les points d'appui et à beaucoup plus travailler là-dessus plutôt que focaliser finalement sur un constat qui était dur dès le départ, qui perdure certes, mais qui a quand même tendance à beaucoup évoluer.
Et comme on est dans la troisième année en fait du Léa, donc votre collaboration va toucher à sa fin, quelles sont les perspectives pour la suite du projet? Caroline H.
Bah alors, du côté recherche, on a souvent parlé avec Frédéric de cette notion de temporalité. Donc, la temporalité est très différente entre la recherche, le terrain. Ça a été de nombreuses discussions pour nous. Donc, nous, l'une des perspectives du projet, en fait, c'est de prendre le temps de construire la pensée autour de ce qui a été fait pendant ces trois années de Léa. parce que pris dans ce développement des pôles professionnels et sa construction de cette trousse à outils capture qui est la priorité, comme l'a dit Frédéric, et il le rappelle très souvent, ce qui est important, c'est la classe et les élèves. Et qui gravitent autour de ça, bien sûr, ces enseignants qui sont avec eux au quotidien. Et puis ensuite, les encadrants au sens large qui sont là pour les accompagner. Donc, beaucoup de choses ont été faites pendant ces 3 années au niveau du Léa. Et la recherche a pu observer, accompagner, évaluer. Alors, le terme évaluation, quand on l'utilise dans le monde scolaire, il fait un petit peu peur quand on dit que la recherche, elle évalue. C'est pas du tout une évaluation sanction. C'est en fait, c'est plus une observation descriptive et critériée qui permet d'analyser en fait ce qui s'est passé. Donc l'une des perspectives du projet en fait, c'est de prendre le temps d'analyser et de mettre en mots tout ce qui a pu être observé pendant ces 3 années pour pouvoir le communiquer. Donc à travers des communications dans des colloques ou à travers l'écriture d'articles qui pourra eh bien laisser une trace de tout ce qui a été fait pendant ces 3 ans.
Frédéric Michel.
Voilà, quand on fait un tout petit peu le bilan, on est capable de dire. Voilà, vous parliez tout à l'heure de 11, parce que les Léa, c'était 11 à l'époque où on s'était inscrit. Maintenant, en fait, les pôles de professionnalisation concernent tous les acteurs. Donc, dans l'évolution de notre travail, l'influence du Léa nous a permis, quelque part, de mettre en place des pôles de professionnalisation pour chaque expérimentateur. Au retour que l'on a en présentiel de la part des enseignants, je pense que c'est pas demain qu'ils vont me dire, bon, voilà, on s'arrête là, quoi. Donc, ça, c'est déjà un point qui est un point, on va dire, d'ambiance, si je puis dire, qui est notable. En voyant un tout petit peu plus loin, c'est vrai qu'il faut savoir arrêter quelque chose quand on ressent peut-être des essoufflements ou une perte de motivation. Nous, on avait des attentes, on en discute souvent avec nos collègues chercheurs, on avait des attentes aussi qui étaient peut-être un peu différentes au départ, mais ou qui ont évolué. Mais depuis l'intervention des chercheurs, voilà, on a fait évoluer des pratiques, des regards. La question des regards croisés, vraiment, était vraiment une chose qu'on a mise en place. Donc, notre perspective, au-delà de la mise à disposition d'une trousse à outils, peut-être d'un essaimage, etc., etc., c'est de faire évoluer une pratique qui n'est pas forcément ancrée dans la culture des enseignants, qui est de l'auto-évaluation, du regard réflexif, qui est un exercice qui n'est pas facile à mettre en place et pas facile à faire, au-delà des dispositifs d'innovation pédagogique, de trouver des éléments de terrain concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour aussi faire évoluer cette dimension-là. Le dernier point, c'est la question des élèves, en fait. Toujours pareil. Ce qui nous préoccupe, c'est la performance des élèves en langue et puis surtout leur future employabilité. Donc, on est sur toujours cette préoccupation-là. Donc, Capture s'inscrit dans un continuum peut-être de dispositifs sur lesquels nous avons testé un tout petit peu notre capacité à pouvoir répondre aux besoins des élèves dans les contextes qui sont les nôtres et les prescrits aussi. Mais donc, Capture évoluera. Je pense que le nom restera parce que l'identité est quand même un élément fort, encore une fois, qui nous tient vraiment à cœur. Tous ces concepts qu'on a mis en place et qu'on a créés avec Alain Brugnas et surtout les expérimentateurs. Donc voilà, je ne sais pas trop comment on va évoluer. Bon, voilà, il y a le contexte aussi de l'AFC, voilà, la façon dont on met en place les choses qui nous diront voilà, comment on peut mettre en place un certain nombre de choses. Ce sur quoi je voudrais terminer, qui est vraiment un élément très, très important, c'est que dans Capture, nous avons mis en place une formation par les pairs. Dans les évolutions possibles de Capture, on aurait, je pense, une mise en œuvre de cette formation par les pairs, dont le principe est très simple. Hein. Voilà, on constitue des binômes, on choisit une thématique où on ose sa compétence, on dit ce qu'on est capable de faire ou ce sur quoi on veut travailler. Et puis, un binôme vient dans la classe de celui qui veut montrer et observe justement cette thématique, et ensuite on échange les rôles. Donc dans les perspectives de Capture aussi, et dans la suite, on a ces perspectives de formation par les pairs, de co-développement professionnel, qu'on a pu découvrir notamment aussi avec nos collègues québécois au sein de l'IFE. Voilà, donc on réfléchit dans le contexte actuel, peut-être à des dispositifs qui permettraient de travailler en présence, mais aussi peut-être à distance aussi. Voilà.
Bon, on entend bien que ce projet en fait est loin de toucher à sa fin, bien au contraire. Merci donc à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite surtout de continuer à bien maintenir cette belle énergie. C'est au tour de Laetitia Progin, professeure associée en leadership et direction d'établissement à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, de se confronter au jeu de la chronique « Un mot, un chercheur » autour du mot « direction » pour Eva Rouressol.
Direction. Ligne suivant laquelle quelqu'un, quelque chose, se déplace. Voie suivie, côté vers lequel on va. Exemple. Les pétards partaient dans toutes les directions. Synonyme. Ligne, orientation, voie, destination, sens.
Dans le milieu scolaire, cette définition prend une signification particulière. Ce qui m'intéresse, c'est le travail des professionnels à l'école. Et si on se centre sur les cadres scolaires, justement, il existe deux dimensions indissociables dans leur travail. Deux dimensions qui sont d'ailleurs largement documentées dans la littérature scientifique. Une dimension relative à ce qui a trait à ce qu'on pourrait nommer le leadership, impulser, influencer, convaincre, mobiliser. Pour le dire autrement, donner une direction et prendre les personnes avec soi pour le faire. Et une dimension relative à ce qui pourrait s'intituler le management ou la gestion. Cadrer, exécuter des tâches de manière efficace, mettre en place des processus qui permettent d'atteindre des objectifs stratégiques. Autrement dit, organiser le travail. Afin d'illustrer mon propos, j'utilise régulièrement la citation d'Anne Barrère. Elle écrit qu'il a attendu des chefs d'établissement qu'ils ne fassent plus uniquement tourner l'établissement, mais qu'ils le fassent aussi bouger. On retrouve donc ces deux dimensions, faire tourner, organiser, et donc manager, et faire bouger, impulser, donner une direction, ce qui relève du leadership. Et on a besoin à l'école de ces deux dimensions. Si vous avez une vision, une direction, mais que vous ne savez pas vous organiser, cela ne fonctionne pas. Si vous êtes très organisé, avec des procédures claires, que l'école est bien gérée, mais que vous ne savez pas où vous allez, que vous n'avez pas de vision, ça fonctionne également pas. Car personne ne sait très bien pourquoi vous suivre par rapport à toutes les procédures que vous mettez en place. Ainsi, on combine le leadership et le management pour qu'une école ne se contente pas finalement d'avoir une direction claire, mais qu'elle dispose aussi des moyens pour s'y rendre de manière organisée et efficace. Le pilotage d'une école, d'un établissement scolaire, apparaît comme un exercice subtil d'équilibre entre impulser et cadrer, ou pour le dire autrement, un exercice subtil entre leadership et management. Et en formation, avec les cadres scolaires, il me semble nécessaire de dire d'emblée à ces professionnels que le leadership, tout comme le management, peuvent s'apprendre. Ce ne sont pas des compétences innées, même si on peut être naturellement plus à l'aise avec l'une ou l'autre de ces dimensions du travail.
Direction. Action de diriger, de régler l'exécution d'une action, d'administrer un établissement ou de conduire une personne. Exemple. Orchestre placé sous la direction de tel chef. Synonyme. Administration, gestion, gouvernement, organisation.
Ce qu'on a pu observer au sein des différents systèmes éducatifs occidentaux, c'est que le rôle des cadres scolaires a vraiment significativement évolué ces 20 dernières années. Auparavant, ce rôle était axé sur la gestion administrative d'un établissement. Mais ça s'est complexifié. On attend aujourd'hui des cadres qu'ils soient des agents clés de changement pour mobiliser les professionnels de l'école, pour favoriser un environnement propice à l'innovation. Et cette situation, elle peut refléter aussi l'augmentation des responsabilités que les cadres scolaires doivent assumer. Piloter un établissement aujourd'hui implique une charge de travail importante et nécessite d'apprendre notamment à jongler entre des exigences administratives, les différents projets à mener et beaucoup de défis. Ces responsabilités, elles incluent non seulement la gestion administrative, mais aussi la conduite de ces projets et l'adoption d'une approche inclusive et durable de l'éducation, mais aussi la collaboration avec les professionnels, les enseignantes et enseignants, les partenaires de l'école, la gestion des attentes des parents et de la communauté éducative plus largement. Donc on se rend bien compte qu'il y a beaucoup qui pèse aujourd'hui sur les épaules des cadres scolaires, tout comme sur les épaules des enseignantes et enseignants, sur les épaules en réalité de tous les professionnels de l'école. Et ce contexte exigeant souligne pour moi le besoin de soutien, de formation, de ressources pour qu'on puisse faire son travail sans être submergé par le poids des responsabilités qu'on a aujourd'hui mis entre les mains des écoles.
Direction. Ensemble des services placés sous l'autorité d'un directeur et dont dépend un certain nombre de services subordonnés à celui-ci. Exemple. Direction de l'enseignement primaire, direction des eaux et forêts.
L'autorité d'une direction, d'un cadre scolaire, en tant que titre formel ou position dans un organigramme, c'est seulement une promesse de pouvoir. L'autorité formelle, celle qui découle d'un titre, d'une position, ce n'est pas une baguette magique. Ça ne permet pas immédiatement, parce qu'on est chef, parce qu'on a cette autorité formelle, d'être considéré comme légitime auprès des équipes. Ce titre, cette position de chef, c'est une ressource, mais une ressource parmi d'autres, pour exercer son rôle. Toutes les théories organisationnelles contemporaines montrent que cette autorité formelle n'est plus considérée comme suffisante pour le bon fonctionnement d'une organisation, et ainsi d'un établissement scolaire ou d'une école. Il ne suffit pas de donner formellement de l'autorité à quelqu'un pour que cela fonctionne automatiquement. On le voit bien d'ailleurs en classe avec le métier d'enseignante et d'enseignant. Et le véritable pouvoir réside souvent chez celles et ceux qui sont capables d'influencer, de convaincre, de mobiliser. Alors au-delà de cette position, de ce statut hiérarchique, qu'est-ce qui peut faire que certaines et certains exercent plus d'influence que d'autres au sein d'un même groupe? Ça peut être l'assurance, l'esprit de décision, la capacité d'expliquer, de négocier, de trouver des compromis gagnant-gagnant lorsqu'on travaille en équipe, de mobiliser les autres, de savoir réunir les uns et les autres autour d'un intérêt commun en faisant des compromis. Les moyens aussi d'être très clair dans ce qu'on dit, de proposer une représentation claire et convaincante de ce qu'on veut faire. Ce sont des compétences sociales, aujourd'hui on parle souvent de soft skills, qui peuvent faire largement contrepoids au savoir de certaines et de certains qui ne sauraient peut-être pas forcément mettre leur expertise en avant, faute de savoir peut-être le communiquer. Le fait de confier ses responsabilités à l'établissement scolaire qui doit être en projet, qui doit obtenir des résultats, ça s'inscrit dans la nouvelle gestion publique. On peut aussi se dire que s'intéresser aux apprentissages des élèves, c'est extrêmement important et c'est important que ce ne soit pas juste l'affaire des, entre guillemets, des enseignantes et des enseignants en classe et que les personnes qui sont à la tête des établissements aient également ces préoccupations. Donc, effectivement, on peut craindre une organisation néolibérale, mais on peut espérer une organisation apprenante. Et c'est ce que moi, j'espère pour l'école d'aujourd'hui et de demain.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. À la réalisation, celui qui capture le son, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Léa Réseau Capture sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cadécole. Et pour les Lyonnais qui souhaitent en savoir plus sur le personnage Pascal Grousset, n'hésitez pas à visiter l'exposition qui lui est consacrée à la Bibliothèque d'Hydro de Lyon jusqu'au 7 avril de cette année. À très vite.